Bien. Bonsoir à toutes et à tous. On va essayer de parler sans micro, mais je pense que la voix va passer jusqu'au fond de la salle. Je vous souhaite la bienvenue à notre conférence de rentrée du programme QM, Cercle universitaire d'études marxistes. Nous sommes heureux de commencer donc aujourd'hui avec Annie Lacroix-Risse, que je vais laisser parler dans une minute. Je rappelle que notre programme est déjà, je crois, en ligne depuis plusieurs semaines et que la prochaine séance est prévue pour le mardi 8 octobre. Donc ce ne sera pas un jeudi, ce sera le mardi 8 octobre. C'est moi d'ailleurs qui vais faire un petit parcours à travers la pensée de Gramsci en lisant quelques textes, en essayant de on aura ensuite la Russie sur la scène agricole le 21 novembre, le 19 décembre l'impérialisme en Afrique, le cas du Cameroun, le 23 janvier une séance animée par Michel Le Thomas donc, sur René Vautier, cinéaste militant anti-impérialiste. Le 19 mars, économie et climat, politique de l'énergie et impact sur le changement climatique, le fameux débat qui a inondé notre été.
Ce n'est pas fini.
Le 14 mai, Bruno Dreski parlera de la Biélorussie post-soviétique. Et dernière séance, celle du 25 juin, c'est loin, mais j'en parle déjà. C'est sur le Proche-Orient. La paix est-elle encore possible? Et on a promis au public l'année dernière une deuxième séance sur l'impérialisme et la Chine suite à la conférence sur la Chine est-elle capitaliste par Rémi Herrera et Michel Gouzel. Mais comme on a un problème de salle, pour l'instant, on ne peut pas annoncer ni de lieu ni de date. Mais on a gardé ça, donc vous trouvez le programme. Et puis je présente, mais en fait on ne présente plus Annie Lacroix-Risse, donc je lui laisse très rapidement la parole, puisqu'elle nous honore de sa présence depuis le début, hein, et donc nous sommes honorés et reconnaissants d'entendre donc sa conférence sur la non-épuration en France, donc objet de son dernier ouvrage, 1943 à 1950. Et voilà, j'ai la joie de te donner la parole.
Alors vous m'excuserez de commencer.
Oui. On est ébloui par votre personne, votre personnalité et vos travaux, mais si on pouvait baisser par
la
question derrière, on vous verrait quand même mieux.
Ah bon. Alors écoutez, ça marche ça?
Oui.
Je vais vous dire tout de suite quelque chose, parce que si je ne vous le dis pas tout de suite, j'oublierai, j'oublie toujours. C'est pourquoi j'ai demandé à Gianni, qui s'est acquitté de la mission, de me dire que je devais vous parler de la chaîne parlementaire. Et alors ça tombe bien, parce qu'il vous annonce pour le 8 octobre la séance qu'il assurera. Et alors le 8 octobre sera normalement le lendemain du 7, enfin normalement ça sera le lendemain du 7, mais normalement à 20h30 sur la chaîne parlementaire, vous assisterez à une émission, semble-t-il, qui est assez suivie sur la chaîne parlementaire, un documentaire suivi d'un débat. Ça s'appelait Droit de suite, ça va s'appeler débat, histoire débat ou quelque chose comme ça. Et j'ai été invitée, je ne sais pas pourquoi, j'ai été invitée, ce qui n'arrive jamais, à discuter avec deux collègues d'un film que vous avez peut-être vu, il vaut la vision, vous le verrez d'ailleurs, qui s'appelle La Tondue de Chartres. Et j'ai fait une conférence il y a quelques jours et les personnes m'ont dit oui, on a vu La Tondue de Chartres, parce que j'évoquais ce documentaire comme une espèce de symbole de la vision que nous avons aujourd'hui de l'épuration de ces malheureuses femmes tondu, marqué, nous dit-on, même au fer rouge. D'habitude, c'est au goudron, mais là-bas, et on nous expliquait que c'était au fer rouge. Et des règlements de compte, enfin, vous savez, de cette épuration sauvage qui résumerait l'épuration. Alors, nous avons discuté de ça. Le présentateur a dit que, quand même, la non-épuration, vraiment, la non-épuration, personne ne dit ça. Alors, j'ai fait un ouvrage sur la non-épuration parce que, finalement, au bout d'un certain nombre d'ouvrages, j'arrive à une certaine lassitude des fausses questions. Pourquoi parler d'épuration puisque on consacre un livre à parler d'autre chose, cette épuration qui précisément n'a pas eu lieu, mais alors je disais donc, oui je l'ai dit, hein, chaîne parlementaire, 7 octobre, 20h30, 22h, vous verrez le débat est court, mais ça lance quand même un débat enfin, à propos duquel, bien entendu, vous aurez aujourd'hui beaucoup plus. Vous savez en effet que depuis 20 ans, 25 ans, l'historiographie du genre a lancé, qui était une historiographie de gauche, même disait-on d'extrême gauche, a lancé en France cette histoire du genre qui s'est focalisée d'abord sur l'histoire de l'épuration des femmes tondues, qui aurait été une sorte de symbole d'une épuration sauvage qui, à la libération, se serait abattue contre les femmes qui avaient eu simplement, puisqu'on nous a dit que c'était simplement, des faiblesses pour les Allemandes, qu'on a appelé longtemps la collaboration horizontale, et qui d'ailleurs n'a ému, je dirais, un phénomène qui n'a ému personne pendant longtemps, sachant, et il faut le dire d'emblée, que cette collaboration horizontale n'a pas été ce qui a été reproché aux femmes en question. Vous observerez d'ailleurs, puisque je suis sur l'épuration dite sauvage, que les prostituées n'ont pas eu d'ennui, parce qu'on considérait que les relations sexuelles faisaient partie de leur emploi et que, ma foi, elles ne le perdaient pas sur l'occupation. Donc il s'agit d'autre chose. Mais il s'agit... J'ai été, quand j'ai commencé cet ouvrage, au bout de plusieurs années de recherche, notamment sur les fonds de justice, ces fonds de justice enfin ouverts et qui sont décisifs, j'ai été très, très troublée. Parce que finalement, la problématique, il fallait la faire démarrer sur la base des autres. C'est-à-dire, il fallait accepter cette dichotomie entre une épuration légale assurée par un état de droit, qui voulait certes rénover, mais qui ne voulait pas mettre la France à feu et à sang, et une épuration sauvage qui aurait ravagé la France et qui se serait naturellement traduite d'abord par les femmes tondues, celles qui avaient été analysées d'abord par un philosophe, Brossat, et puis par des historiens, dont Virgili, qui est un des membres du débat dont je viens de vous parler sur la chaîne parlementaire. Et si vous regardez la télévision, si vous écoutez la radio, enfin bref, si vous suivez l'histoire via les grands médias, ce que vous savez aujourd'hui de l'épuration, ça n'est plus que l'épuration sauvage, qui se serait traduite d'une part par le martyre des femmes. Alors là, pour ceux qui ont déjà vu la femme tondue, évidemment c'est très frappant. Voilà, une femme avec un bébé de 3 mois dans les bras, poursuivie par une foule hurlante. C'est absolument sauvage, féroce, très impressionnant. Et c'est ça qui aurait caractérisé la France des abords de la libération. Alors, moi, je me suis dit, mais on ne parle pas de la même chose, d'abord. Hein. L'épuration, ça, c'est l'épuration. Enfin, l'épuration sauvage de 43 à 44 ou 45, c'est une épuration qui aurait été une épuration sociale, deuxième temps. Après, la terminologie genrée, qui, vous le savez, a envahi d'ailleurs le champ historiographique et pas seulement pour l'histoire de l'épuration, on a eu droit à une espèce de submersion du champ historiographique par une histoire atroce de la France à l'époque de la Libération. Parce que finalement, quand vous regardez bien, quand vous entendez bien ce qu'on vous diffuse maintenant, ce qui a été la pire période de l'histoire de la France, c'est au fond l'été 1944. Et puis, un petit peu de lendemain. Alors là, toute l'historiographie de droite et d'extrême droite, qui ne se dit pas d'extrême droite, mais qui est d'extrême droite, qui d'ailleurs adopte le langage et les concepts des collabos immédiats d'après-guerre, qui évidemment fulminaient contre cette guerre civile qui s'était abattue sur la France, se sont précipités sur les femmes tombées. Et évidemment, j'ai été obligée de dire, je vais d'abord vous parler de ce que n'est pas l'épuration. C'est-à-dire qu'on a... Alors, c'est un aspect intéressant, d'ailleurs, du débat d'aujourd'hui. On est à peu près d'accord sur les chiffres de ce qu'on appelle les exécutions sommaires. Hein, ils ont été... Alors, mes collègues un peu optimistes disaient que... Une collègue disait que les historiens avaient établi des chiffres. Il faut être honnête, c'est pas les historiens, c'est le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Justice qui, entre 50 et 52... avait déterminé 10 000 exécutions. Il faut encore savoir de quelles exécutions il s'agit. 10 000 exécutions, dont, nous dit-on, la quasi-totalité au moment de la libération. Mais point du tout. Les deux tiers avant la libération de Paris. Mais dit-on, les deux tiers avant la libération de Paris, ça s'appelle les combats préparatoires à la libération. Ça n'est pas du tout de l'épuration, comme disent mes collègues d'extrême droite, qui auraient ravagé la corporation des notaires parce qu'ils étaient notaires, les châtelains parce qu'ils étaient châtelains, les gendarmes, des braves gens. Surtout de 1940 à 1941 à 1944. Eh bien voilà, en fait, il y a tout un pan de ce qu'on nous présente comme une épuration sauvage qui est constitué des combats de la libération, des combats préparatoires à la libération. Alors, quand vous avancez tout seul, vous êtes bien entendu obligé de faire ce que les autres ne font pas, c'est-à-dire d'être implacable sur la chronologie et d'être implacable sur les sources. Car vous remarquerez d'ailleurs cette espèce d'extraordinaire entremêlement depuis 20 ans, surtout depuis 20 ans, qui consiste à ne pas tenir compte de la chronologie parce qu'on ne regarde pas les sources, ou à ne pas regarder les sources, et bien entendu à se moquer de la chronologie. Si vous avez vu Apocalypse Staline, vous avez été frappé certainement par cette fantaisie chronologique qui consiste à aller en 43, puis à passer à 34, puis aller à 41. Exactement comme les enfants de nos écoles qui de toute façon ne comprennent plus rien, parce qu'une chronologie, ça ne s'analyse plus. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe, vous le savez, que la résistance, après avoir été forcément très faible, et d'autant plus faible, bien entendu, que les alliés occidentaux s'en méfient comme de la peste, et que le futur État de droit s'en méfie également comme de la peste, car on veut bien qu'il soit là, parce que ça va aider quand même, De Gaulle souhaite que ça l'aide, à ne pas voir installer un gouvernement militaire américain comme ce qui est promis à la France, mais pas plus. Or, après, le tournant de la guerre n'est pas Stalingrad, mais vous savez bien que la question se pose à partir de Stalingrad, de savoir tout simplement quand l'Allemagne va être vaincue. Et que, bien entendu, on est dans une situation nouvelle de la résistance, et que cette résistance est de plus en plus active, que les sources sont catégoriques. Les sources françaises, les sources de Vichy, les sources de Londres, celles du BCRA, les sources allemandes, un bonheur, les sources allemandes, parce que je dois vous dire que c'est une de mes meilleures... je ne dirais pas témoignage, mais une de mes preuves les plus absolues, font cette analyse, en effet, que la résistance rend absolument impossible la vie aux troupes allemandes. C'est-à-dire que la ligne du PCF qui s'est, vous le savez, intégrée, enfin qui s'est intégrée, cette résistance active, très active, depuis le printemps 1941, et d'ailleurs pas depuis le 22 juin 1941, ce parti communiste attire la résistance parce que, comme dit très bien un spécialiste, un haut cadre des cheminots fin 1943, À les cheminots, quand ils voulaient agir contre l'occupant, ils n'avaient qu'une solution, une seule. C'est de se rapprocher des communistes, même quand ils n'étaient pas encartés. D'ailleurs, ce cadre d'une grande intelligence politique disait, et d'ailleurs, à la libération, les choses se décanteront, tout le monde reviendra vers son milieu d'origine, et les cheminots, ils seront à nouveau socialistes, communistes, mais cette résistance est essentiellement une résistance communiste. Qui, les sources, sont absolument formelles, ne songe pas à prendre le pouvoir comme tous mes collègues l'en accusent depuis 25 ou 30 ans, et depuis 20 ans, ne parlons pas de l'espèce de consensus universel entre ce qu'on appelle l'extrême gauche et l'extrême droite, en passant par le centre la droite classique. Non, l'objectif, c'est d'éliminer l'ennemi qui a envahi, qui a franchi les frontières, de l'éliminer du sol national et de lui rendre la vie impossible. Ah, disent mes collègues, spécialistes éminents de la résistance, tels qu'Olivier Viviorca, qui interdit évidemment l'accès d'une série de moyens d'information à tout dissident, la résistance n'est rien. C'est une espèce de petit bonus, dit-il, dans un de ses nombreux ouvrages sur la résistance, entièrement de seconde main. C'est juste un petit bonus parce que c'est bien, Eisenhower, pour faire plaisir à la France, a dit qu'on l'avait aidé un peu à libérer le territoire, mais elle n'a eu aucun rôle militaire. Elle n'a eu aucun rôle militaire. Voulez-vous bien voir les rapports d'Abetz de 1943 disant que les troupes allemandes ne peuvent plus se déplacer? Voulez-vous me dire comment on passe de 28-30 divisions allemandes avant 1944 en France à près de 50 divisions allemandes, parce que la France redevient un territoire de guerre, comme dit très bien le chef du front ouest, von Rundstedt, la guerre a repris entre la France et l'Allemagne. Tout ce pan de l'histoire qui a fait 6300 morts de la période qui précède la libération, pourquoi? Mais parce que vous savez, il y a peu de troupes en France, il y a encore moins de police. La police, ceux qui ont lu mes ouvrages précédents, savent très bien le ZIPO-SD, ce qu'on appelle nous la Gestapo, hein, qui est à Paris, qui est partout, qui est à travers tout le territoire, et à partir de novembre 1942, dans ce qu'on appelle la zone libre, la zone non occupée, cette police, elle représente 3000 personnes. Vous imaginez, avec les effectifs que nous avons de victimes, je vais les rappeler quand même. Au bas mot, 40 000 à 60 000 fusillés en France. Ceux qui sont collectés, puis sont ceux qu'on imagine. Les 75 000 juifs morts, bon, l'essentiel de ce qui a été transféré, puisqu'il n'en est pas revenu, qui sont déjà, je dirais, l'effectif de base des victimes. Vous imaginez qu'il a fallu 3 000 policiers ou les effectifs de la Wehrmacht dès 1943? Pas du tout. Les Allemands ne travaillent qu'avec les Français. Alors avec les Français, vous le savez, évidemment, disposent de la collaboration institutionnelle de l'État français. Et je vous rappelle les accords policiers que vous croyez peut-être quelquefois datés de juillet 1942 par l'accord, les premiers accords Bousquet-Auberg, mais enfin, je l'ai montré dans des livres précédents, cette collaboration, elle ne date pas du tout de 1942. Non seulement elle ne date pas de 1942, elle ne date même pas de 1940, puisque j'ai montré dans de Munich-à-Vichy qu'elle s'établit de manière définitive avec les mêmes hommes qui viendront à Paris, qui sont déjà à Paris et qui reviendront à partir de juin et juillet 1940. Elle s'établit avec les chefs du ZIPO. Je ne vous donne qu'un exemple. ce bon Bummelburg qu'on n'a jamais retrouvé, qui est le deuxième personnage du Zippo SD, et qui est arrivé bien tranquillement en 1938, discuter avec nos policiers, nos éminences policières de la préfecture de police et du ministère de l'Intérieur, de la prise des antifascistes allemands en 38-39, fin 38, début 39. Vous savez que ces gens sont obligés de partir momentanément, mais qu'ils reviennent officiellement, ils partent en juillet 1939, juillet août 1939, et reviennent. Et Bummelburg sera de fait le premier personnage de la police, ce premier personnage de la police qui les connaît tous, qui va les retrouver, sachant, alors vous savez, on a un grand républicain, alors là vraiment, républicain, franc-maçon, etc., qui est Roger Langeron, le préfet de police, vous savez, celui qui vient discuter avec un des occupants militaires, du gouvernement militaire, dès septembre 1940, et qui vient lui proposer de rédiger un fichier juif, ce qui est assez délicat en France, parce qu'en France, on n'a jamais fait de distinguo entre les races, les religions, etc. Vous voyez, pour la France de 1905, c'est un peu délicat, même pour la France antérieure d'ailleurs. Tout ceci pour dire que s'il y a la collaboration institutionnelle de la police, de la gendarmerie, évidemment, absolument démontré par nos archives préfectorales. Moi, c'est bien simple, j'ai dépouillé tous les rapports existants encore des préfets régionaux. C'est vrai qu'ils ont fait un grand ménage, un très grand ménage. Je vous donne l'exemple d'un préfet présenté comme un grand résistant, très grand résistant. La définition de la résistance commençait en général en juin-juillet 1944. Vous penserez peut-être que je suis excessive, je vous assure même pas. Puisque les magistrats qui eux-mêmes avaient collaboré jusqu'en juin, juillet, août 1944 expliquaient que tel préfet, comme Quenette, par exemple, dont je reconstitue le parcours, avait été donc de grands résistants. Et bien lui, Quenette, il a supprimé tous ses rapports de 1940 à 1944. C'est commode. Mais heureusement, il y en avait qui étaient plus fiers et qui en ont gardé beaucoup. Et puis même ceux qui ont été prudents à la fin en ont laissé passer comme ça, par-ci, par-là, vous voyez. Alors il y en a un de 42, il y en a un peu de 43, il y en a de 44. Bon, 44 d'ailleurs, on appelle ça, ils appellent ça, on passe des terroristes éventuellement aux résistants. Mais là, c'est pas avant juin, juillet 1944. Tout ça pour vous dire que l'appareil préfectoral, qu'il ait laissé beaucoup de rapports, ou peu de rapports, montrent que la terminologie qui a été fort à la mode il y a une vingtaine d'années, quand sous l'égide de René Raymond, on expliquait qu'on pouvait faire une catégorisation des préfets, avec les préfets pas trop vichistes, les préfets pas trop antisémites, les préfets restés un peu républicains, tout ça, dans les sources, ça disparaît entièrement. Les sources des préfets, les sources du BCRA, les sources allemandes qui n'ont qu'à se féliciter de ces excellentes relations, tout ça, ça nous fait beaucoup de Français qui ont participé aux persécutions, énormément, et les magistrats, tout l'appareil d'État. On ne peut même pas imaginer, compte tenu de ce qu'on nous raconte maintenant pourtant que les archives sont ouvertes, on ne peut pas imaginer, sauf peut-être les familles de victimes, mais même elles ne l'ont pas su, parce qu'elles n'ont pas connu les véritables responsables de la collaboration et de la trahison. On ne peut pas imaginer ce que veut dire la collaboration franco-allemande dans des domaines tels que le crime de sang. C'est inimaginable, mais heureusement nous avons des sources. Et ces sources, françaises et allemandes, établissent donc que ce qu'on appelle l'épuration sauvage, ce sont des exécutions dont je donne évidemment un certain nombre d'exemples, honnêtes, pas du tout choisis, il est impossible de faire le choix. Dans l'espèce de dossier monstrueux qu'est le fonds BB18 ou qu'est le fonds BB30, il est finalement, en toute honnêteté, on pourrait choisir un cas par catégorie. c'est toujours la même chose. Et par conséquent, nos morts du règlement de compte, ce sont des gens qui ont été exécutés parce que auxiliaires permanents. Vous savez ce que c'était qu'une rafle de une rafle d'Allemands, ça se passait avec toutes les forces de police, ça se passait avec toutes les forces miliciennes. Ah, dit ma collègue Vergès-Chénion, vous savez, les miliciens, c'était des adhérents fantômes. Ah bon? Eh bien, vous regardez les sources de guerre, vous allez voir les adhérents fantômes d'une efficacité redoutable. Et tous les exemples qu'on peut citer à travers toutes les régions disent toujours la même chose, qui vous explique que j'en ai choisi un certain nombre, mais qu'évidemment je n'ai pas infligé au lecteur, bien que l'ouvrage soit gros, je n'ai pas infligé, bien entendu, un bottin. Alors ça, déjà, ça nous fait une grosse liquidation de l'épuration sauvage. D'autant que, à la libération de Paris, vous le savez, le territoire n'est pas entièrement libéré. Vous savez même que les derniers éléments de la libération du territoire n'interviendront que en mars-avril sur la côte atlantique. Et que croyez-vous que ces gens font encore jusqu'à la liquidation des derniers éléments des troupes allemandes? Ben, ils sont toujours là. Parce que je vais donner un exemple d'ailleurs à propos d'une femme. Alors là, celle-là arrache des larmes de sang à Vergès-Chénion. C'est une dame, une demoiselle de Villon. Alors une horreur, elle a été arrachée par la foule, cette foule hurlante, cette foule horrible, vous savez, ces foules violentes, et puis alors fête de résistants de la 25e heure. Hein. Alors on a des dossiers énormes sur Jeanne de Vineau, parce qu'elle a fait l'objet d'une énorme enquête policière et de gendarmerie. Cette dame, infirmière de son état, parce qu'il y a de la petite collaboration des petits, mais des petits qui ont été évidemment des faits massifs moins importants que les grands, mais tout de même, je dirais, des faits mortels très importants sur une région ou une fraction de région. Et donc en 1900, fin 43, elle se met à servir les Allemands, courant 43. Et elle est tellement efficace qu'elle va régulièrement à Marseille, elle est dans le sud-est, elle ravage en particulier les Basses-Alpes, hein, ça sera l'héroïne de Gap. Et elle s'en va régulièrement à Marseille, où on l'envoie. Et vous savez ce qu'elle fait, la dame horizontale? Elle est verticale aussi, c'est-à-dire qu'elle mène les colonnes allemandes directement chez les maquisards. Et, par exemple, c'est un de ses hauts faits, c'est le fait pour lequel elle a été traduite en justice. Mais vous savez, le fait pour lequel on est traduit en justice n'est toujours qu'un tout petit morceau. Par exemple, Pucheux est traduit en justice, d'ailleurs même pas officiellement pour avoir livré les otages communistes de Chateaubriand, mais finalement on ne parle que de ça. Mais ces gens ont à leur actif bien plus que 51, bien plus que 20, bien plus que 100. Et donc cette dame, dit Vergès-Chénion, elle est lynchée, enlevée par les résistants. Vous savez ce qui s'est passé? Elle sort d'une des instances légales, puisqu'on est déjà dans le cadre des cours de justice. Elle sort de la cour de justice et c'est parfait parce qu'il y a eu un accord entre les magistrats, tous les magistrats, ma foi, cette dame qui avait toute sa raison et qui touchait tant par colonne conduite et maquisard envoyé à la mort tout de suite ou déporté. Eh bien, cette dame donc sort par accord entre les magistrats du siège et le parquet, munie d'un examen psychiatrique. Bon, elle sort. Elle se fait boxer par deux hommes violents, incontestablement, qui lui mettent un coup de poing fort. Et puis, Elle passe à travers Gap, où elle est vue par toute la ville, parce qu'elle est connue comme le loup blanc, et elle est enlevée en voiture, mais elle est enlevée par des maquisards, ce qui reste des maquisards qu'elle n'a pas réussi à livrer aux Allemands, et qui vont l'emmener dans un petit village, un peu plus haut, et qui vont juste l'interroger pour lui demander quelques informations sur ce qu'elle a fait, c'est-à-dire avoir des informations sur d'autres choses que celles de ce village. Et puis, vers 9h du soir, ça s'est passé dans l'après-midi, vers 9h du soir, après l'avoir gentiment ménagée, les maquisards téléphonent à la gendarmerie, demandent à la gendarmerie de venir la chercher. D'ailleurs, les magistrats sont persuadés que tout va bien, ils sont contents, il n'y a pas de mort, tout ça. Et puis, les coups appliqués par les deux personnes de la sortie de la cour ont été tels qu'elle meurt. Mais enfin, c'est pas seulement une femme qui a couché avec les Allemands. Et tous les dossiers ressemblent à ça. Et moi, je les ai trouvés, je ne les cherchais pas. Je ne travaillais pas du tout sur les femmes tondues, je ne travaillais pas sur les femmes en justice, je travaillais sur l'ensemble du lot. C'est-à-dire un lot qui va de ce genre de personnes jusqu'au plus haut sommet, puisque, si vous voulez, le plus haut sommet, c'est évidemment l'appareil d'État, c'est évidemment les grands patrons qui, comme disent mes collègues, n'aimaient que leurs entreprises et voulaient donner du travail à leurs ouvriers et ne faisaient pas de politique. C'est-à-dire que vous les avez tous. Vous avez le hideux, qui n'est pas seulement un ministre, mais un grand patron. Vous avez Boussac, vous les avez tous. Alors, évidemment, notre épuration sauvage, elle tombe. D'épuration sauvage, il n'y a pas eu. Et alors, disait aujourd'hui l'animateur du débat, il y a d'abord une épuration sauvage, alors on a droit à la femme tondue, et puis il y a une épuration légale. Ah, mais revenons à la chronologie. Qu'est-ce que c'est que l'épuration légale? Est-ce qu'elle s'installerait dans les difficultés de la reconstruction, et de la reconstruction de tout, de l'État, de l'appareil économique, etc.? Est-ce que tout ça est neuf à partir d'août 44, disons entre août 44 et avril 1945? Que nenni! Car l'épuration légale, elle a commencé bien avant. Elle a commencé, je vais même dire quelques mots qui ne concernent pas la France, mais qui concernent quand même la France, puisque la France est dans la future zone occidentale qui va échoir entièrement aux États-Unis. Là, l'Angleterre en voudrait bien un bout, mais enfin, ça va quand même être difficile pour elle, même si elle accompagne les Américains par-ci, par-là. En fait, si on a le droit à la science, on sait, si on a lu un historien journaliste comme Tom Bauer, jamais traduit en français, on sait, depuis 1981, que... à partir de 1941 pour les Anglais, et disons de 1942 pour les Anglais, pour les Américains, et ensemble, il n'est pas question d'épurer. Il n'est pas question de dénazifier l'Allemagne, parce que vous ne voudriez pas tout de même qu'on fasse rupture définitive avec d'excellents partenaires. Je mentionne pour mémoire, de plus en plus de gens le savent, peut-être ailleurs qu'en France, mais pas trop en France, que les relations ont été maintenues à tout niveau, et en particulier au niveau économique. Je ne donnerai qu'un exemple, et il est significatif de tous les secteurs financiers américains qui, vous le savez, ont été les grands partenaires de l'Allemagne et les grands prêteurs à l'Allemagne. Pas tout seul, hein ? Pas tout seul. Tout l'Occident en a fait autant, car il n'y avait pas d'opération plus rémunératrice en termes de capitaux entre, dirons-nous, les années 1920, de manière définitive 23-24, et 1939-40, voire même au-delà. Il n'y avait rien de plus intéressant que de prêter à l'Allemagne pour son réarmement. Bon, je ne vais pas faire cette histoire-là, je l'ai faite ailleurs. Et puis d'autres que moi l'ont fait. Mais ce qui est sûr, c'est que si les Américains sont décidés, bien entendu, à obtenir une diminution des prétentions de l'impérialisme allemand bien impérieux, ils ne vont pas rompre. Ils n'ont jamais rompu. Ils n'ont pas rompu dans le cadre de la Banque des règlements internationaux, petit bébé du plan Jung installé à Bâle depuis 1930, juillet 1930, et dont tous les dividendes sont payés en or. Tellement payés en or et tellement rubis sur l'ongle que le dernier versement arrivera à Bâle en avril 1945. Il était un peu dommage parce qu'en mars 1945, en mai 1945, ça a été interrompu. Eh bien, de ces relations intimes, alors pour le coup intimes, sinon horizontales, de ces relations, vous connaissez au moins quelques petites choses. Pensez au camion du front de l'Est. Ah, direz-vous, moi j'ai entendu dire que c'est Renault le 3,5 tonnes. Oui, mais c'est aussi le 3 tonnes. Et qui a fourni exclusivement le camion 3 tonnes au front de l'Est? Ford, devenu américain, devenu, pardon, allemand, puisque Ford Cologne, c'est la plus grosse filiale étrangère des États-Unis de Ford en dehors, c'est-à-dire qui a dépassé la filiale britannique longtemps majoritaire. C'est le 3 tonnes de Ford et c'est le 3 tonnes d'Opel. Bah, Opel, vous direz Opel. Eh bien, Opel est 100% General Motors depuis 1929. Vous voyez toutes ces choses extrêmement vulgaires dont nous n'entendons jamais parler. Alors, bien entendu, on ne peut pas parler de ce qui s'est passé en France comme de ce qui s'est passé au Danemark, en Belgique, en Allemagne et en Italie, que les Allemands, que les Américains soient dans une situation d'amgott, de gouvernement militaire, ou qu'ils soient théoriquement dans une position d'allié. On ne peut pas parler de ça, bien entendu, sans évoquer le centre, c'est-à-dire ce qu'on décidera de faire de la dénazification. De dénazification, il n'y aura pas. Mais vous ne le savez pas, vous ne le savez toujours pas. Parce que ce qui est connu, il faut bien le dire malheureusement, pas de la population, mais des lettrés anglophones, c'est-à-dire le fait que jamais ils n'ont eu l'intention de dénazifier, ça n'est pas connu chez nous. Et pourquoi donc? Parce que chez nous, il y a un rideau de fer contre la production allemande et anglophone qui établit tout ça. Donc ça n'existe pas. Et mes collègues font des synthèses, dont d'ailleurs un collègue qui était là au débat, dans lesquelles ils expliquent que les Américains voulaient absolument dénazifier, purifier, punir, sincèrement. Bien entendu, ils ne voulaient pas ravager des classes entières, ce sont des gens civilisés, mais ils voulaient. Par exemple, ils avaient établi une liste de 80 000 criminels de guerre, une liste minimale, hein, vraiment minimale. Hein. Il y a quand même des millions de membres du NSDAP qui ne sont pas plus membres fantômes que nos miliciens. Mais, nous expliquons, ces Américains de bonne foi n'avaient pas les moyens de tirer cette liste, comme c'est dommage. Ils avaient installé un système à Paris, mais pas les moyens financiers des Américains d'installer, de sortir cette liste, donc de la communiquer à tout un chacun. C'est-à-dire que j'ai quand même des collègues qui ont réussi à faire une synthèse dans laquelle Barbie se trouve dans l'index et donc dans le livre, mais dans laquelle vous ne comprendrez jamais que Barbie a été embauché en mai 1945 par les Américains pour faire de la délation sur le KPD, ce qu'il avait tellement bien fait, notamment, vous le savez, à Lyon. Enfin, il avait eu d'autres compétences ailleurs. Vous voyez, tous ces éléments du puzzle qu'il est nécessaire de réunir, eh bien, non seulement éventuellement vous ne voyez pas les pièces de puzzle, mais que dire de la possibilité de faire le puzzle entier, puisqu'il manque plein de pièces. Alors, ces Américains, eh bien, en 1942, sachant que depuis 1941, depuis juin-juillet 1941, vous direz que je trompe peut-être de date. Non, pas du tout. Depuis que le Blitzkrieg est immédiatement mort dans les plaines de Russie, chacun sait à l'Occident qu'il va falloir faire, comme dans la Première Guerre mondiale, mais bien plus qu'après la Première Guerre mondiale, faire affaire avec les Américains, car, comme dit un de nos généraux pétainistes les plus importants, dans une lettre, j'allais dire célèbre, mais elle ne l'est pas, bien qu'elle mérite la notoriété, le 16 juillet, il écrit à Pétain, voilà, c'est très simple, étant donné la manière dont les Russes se battent, l'Allemagne, le sort de l'Allemagne est compromis. Il va d'ailleurs, dit-il, falloir que nous nous y adaptions dans les mois à venir. Il ne dit pas les semaines, il dit les mois. Hein. Donc il va falloir quand même faire des virages sur l'aile. Hein. Et dit-il, les États-Unis qui ont été le premier vainqueur, le grand vainqueur de la Première Guerre mondiale, seront le vainqueur d'un poids tel que nous devrons nous plier pendant des décennies, que tout le monde en Europe devra se plier aux vœux des États-Unis. Eh bien, c'est clair au moins. Alors, puisque c'est clair, vous imaginez que les États-Unis, par ailleurs pourvus d'un rôle direct en France, d'abord coloniale, puis métropolitaine, que les États-Unis vont avoir un poids sur cette fameuse épuration légale. Eh bien, nous en avons les linéaments directs, je dirais, ou les principes directs établis à l'automne 1942, au moment où les Américains s'apprêtent à débarquer en Afrique du Nord. Oh ben, me direz-vous, voilà une décision tardive. Enfin, c'est une décision quand on connaît les archives coloniales d'Algérie ou du protectorat. C'est une décision quand même qui est officielle dans les milieux élevés depuis décembre 1940, c'est-à-dire depuis le moment où Murphy, ancien diplomate à Paris et installé à Vichy, puisque vous savez que les relations entre les États-Unis et Vichy sont absolument excellentes, il est allé préparer en décembre 40 le débarquement. Le débarquement se dessine à partir de 1942 et Roosevelt émet des directives. Des directives officielles du 22 septembre 1942 qui sont destinées à son chef militaire, le général Eisenhower, qui mènera la campagne militaire, si je puis dire, parce que vous imaginez que dans ces situations de préparatifs, évidemment, les retournements de front sont de plus en plus évidents, non parce qu'on vous dit qu'il y a eu beaucoup de morts, etc. Il y a eu des morts soldats, mais je peux vous dire qu'il n'y a pas eu de morts généraux, hein. Parce que les généraux étaient devenus pro-américains sans exception toute l'année 1942, comme vous le savez d'ailleurs. Ah ben, il n'est pas général, il est amiral, enfin, c'est pareil. Darlan était au courant, parce que on vous dit Darlan a changé d'avis à la fin de 42. Pas du tout, tout ça était gentiment préparé. Et donc le 22 septembre, quelques semaines avant le débarquement, du 8 novembre, Roosevelt envoie à Eisenhower d'une part, à son représentant civil, c'est-à-dire Robert Murphy, dont le véritable centre d'intérêt est l'Allemagne, parce que c'est quand même le plus important en Europe, il envoie des directives très simples, hein, très simples. Je le cite Roosevelt, hein, aucun changement. C'est écrit, hein, aucun changement. Ni civil, ni militaire. Qu'est-ce qu'on demande à Vichy? Qu'est-ce qu'on demande aux généraux? Qu'est-ce qu'on demande au personnel civil? De se rallier aux Américains. Ah, vous voyez, c'est ce qui définit d'ailleurs la résistance. C'est ce qui vous explique que depuis 20 ans, vous avez droit à la vichisto-résistance que moi j'ai qualifiée de vichisto, d'américano-vichisme, parce que aucun n'a jamais résisté. Hein. Si vous m'appelez résistant, des gens qui se promenaient comme les interlocuteurs d'un Américain dont je vais vous parler. Ah, les gens qui se promenaient de Vichy ou de Paris à la Suisse avec les autorisations allemandes d'une part, de Vichy d'autre part, c'est que nous n'avons pas la même définition de la résistance à l'ennemi. Vous voyez, ça fait partie des grands vichisto-résistants que Madame Vergès-Chaignon, qui pleure devant les ravages infligés à la France à feu et à sang, et alors dans le Limousin, quel feu et quel sang, ce qu'elle appelle les Vichyssots résistants. Elle y a même consacré un livre, je vous recommande de le lire en bibliothèque si vous ne voulez pas l'acheter, parce que vraiment ça mérite le déplacement. Hein, mais c'est simplement symbolique. Et donc, vous imaginez ce qu'est le changement à Alger. Ah oui, direz-vous, mais tout de même, à Alger, il se passe des choses. Parce que, finalement, c'est De Gaulle qui arrive là, à partir du 31 mai, à la désolation générale des Américains qui le haïssent. Non pas parce qu'il est le suppôt du PCF, hein, mais tout simplement parce que, vous le savez, De Gaulle déteste l'idée que les Américains vont lui saisir l'Empire. Il n'aime pas ça du tout, du tout, du tout. Hein. Et en la matière, d'ailleurs, il fait preuve d'une fermeté certaine, puisqu'il commence par, il neutralise très vite, par exemple, quelqu'un comme le général Boisson, gouverneur général de l'Afrique occidentale, qui s'apprête à céder aux États-Unis la base de Dakar, parce qu'elle est quand même bien commode, pour le développement mondial, tout comme d'ailleurs il était tout à fait disposé à céder aux Allemands, enfin quelques petites hésitations en 1942. Enfin bref, De Gaulle arrive, et De Gaulle, comme m'a dit l'intervenant, l'organisateur du débat aujourd'hui, mais De Gaulle, le monde est persuadé bien entendu que De Gaulle n'a rien eu de plus pressé pour s'assurer une France rénovée que de mettre sous les verrous les collaborationnistes les plus éminents. Ah ! Eh bien, on va me dire que c'est un exemple que je cite souvent, mais enfin, si on lit les élites françaises de la collaboration avec l'Allemagne à l'alliance avec les États-Unis, on verra qu'il n'est pas le seul. Mais enfin, qui peut penser, lorsque le 9 juin se constitue le Comité français de libération nationale, que De Gaulle va rénover la France avec des ministres tels que son premier secrétaire aux finances, notre éminent Couve de Murville, un grand gaulliste. Vous le savez, d'ailleurs, finalement, je dirais qu'entre 1958 et 1968, c'est un de nos plus grands gaullistes. Mais il n'avait pas toujours été gaulliste. C'est-à-dire qu'il avait été directeur des finances extérieures de la France de juillet 1940, juste après d'ailleurs de l'été 1940, juste après les discussions de 40 à la commission de Wiesbaden, directeur des finances extérieures de Vichy. Vous savez ce que ça veut dire, directeur des finances extérieures de Vichy? Parce qu'on a pratiqué beaucoup la finance extérieure sous l'occupation franco-allemande, notamment. Alors, les sociétés mixtes, les cessions de titres, notamment juives d'ailleurs, mais enfin les sociétés mixtes, on s'arrangeait aussi, quand il y avait des capitaux juifs, c'était plus commode pour céder directement aux Allemands. Puis l'arianisation, vous savez cette arianisation là, on nous parle beaucoup des juifs aujourd'hui, mais vous remarquerez que finalement on ne nous parle jamais ou très peu des opérations d'arianisation auxquelles a présidé Couve de Murville. Et bien vous imaginez la rénovation de l'État, et bien tout est à l'avenant. Alors des ministres résistants, certes, d'abord quand il des résistants tardifs, et puis des résistants que fait frémir la moindre idée de rénovation de la France. Et bien entendu, qui entonne depuis 1943 un thème qui est devenu un thème scientifique aujourd'hui. C'est que, il a été rappelé d'ailleurs aujourd'hui dans le débat, tout de même, ils avaient peur du communisme, ils avaient peur de la tendance du PCF à saisir le pouvoir et à tuer systématiquement les notaires, les châtelains, etc. Alors, vous savez, quand on veut tuer son chien, on l'accuse de la rage. Par exemple, les cagoulards, les synarcho-cagoulards, les synarques qui n'existaient pas et les cagoulards dont on consent qu'ils aient existé, ils expliquaient qui voulait empêcher un putsch communiste. Il ne voulait pas empêcher un putsch communiste, il voulait renverser la République et le faire à la faveur d'une défaite militaire. Bien. Eh bien, c'est la même chose. La question de la terreur du communisme est quelque chose de reconstitué a posteriori parce que la question ne s'est pas posée. La question, la seule question qui s'est posée, La question effective, c'est comment, je ne dirais pas, réaliser la problématique du guépard, tout changer pour que tout demeure, c'est comment, en l'occurrence, ne rien changer pour que tout demeure. Ah, a dit aujourd'hui l'organisateur, ou même a dit un de mes collègues, oh, il y a eu une rénovation de l'État. Profonde. J'ai même appris aujourd'hui que les magistrats, certes, il fallait quand même des magistrats compétents. Il fallait des magistrats qui fussent en mesure, bien entendu, de réaliser tous les éléments nécessaires de l'instruction au procès, n'est-ce pas, à l'acquisition des verdicts. Mais, a dit mon collègue, ma foi, ils ont été aidés par des résistants. Eh bien, vous me lirez. Hein ? Ils ont été aidés par des résistants. Ah bon ? Alors d'abord, je dirais que en ce qui concerne la magistrature, c'est parfait. On a le tableau total, global. D'abord, on a les archives BB18, et on s'aperçoit de quoi. Et puis, on a l'annuaire de la magistrature, 19e, 20e. Alors, avec l'annuaire de la magistrature, c'est très simple. Hein, vous avez toute la carrière des magistrats du 20e, jusqu'à la retraite, hein. Alors vous apercevez qu'un tel, mais ça il ne le dit pas d'ailleurs, il ne dit jamais qu'ils sont présidents de section spéciale du tribunal d'État qui est une institution du même ordre créée également par Pucheux pour être sûr que dans les interstices il ne pouvait pas passer un communiste, un résistant quelque part, donc deux instances spécifiquement destinées à couper le cou. Aux communistes ou à les fusiller, etc. Eh bien, dans ce cadre-là, on connaît les magistrats, mais c'est même pas dans l'annuaire. C'est-à-dire les fonctions purement volontaires. Si vous voulez, ça, c'est comme les sections, les opérations spéciales pour tuer les juifs et les partisans sur le front russe. Aucun policier allemand n'a été contraint à le faire. Quand ils étaient trop dégoûtés par le mélange de sang et de cervelle, ils avaient le droit de dire qu'ils voulaient partir. Aucun n'a fait l'objet de refus. Aucun n'a été arrêté pour ça. On a considéré qu'ils n'étaient pas tout à fait qualifiés pour des fonctions un peu éprouvantes, et on les a retirés. Eh bien, on est vraiment là, dans le même ordre. On est dans l'ordre du volontariat. Ça n'est pas porté, mais ce qui est porté, c'est que tel avocat général de 40, 41 à 44, avocat général quand même, vous savez ce que ça fait les avocats généraux sous l'occupation, c'est magistrats neutres, dont une actuelle secrétaire, garde des Sceaux nous explique qu'ils sont dans une situation, le parquet compris, de totale indépendance à l'égard de la garde des Sceaux qui ne donne jamais l'instruction. Eh bien, ceux qui le croient sont priés d'aller regarder les archives BB18 et de voir ce que c'est que les relations entre un État et un parquet. Alors, l'avocat général, il va devenir procureur général. Ben, ça, c'est encore mieux. C'est le sommet de la hiérarchie du parquet. Et allez-vous me dire, tout de même, dans une ville dont ils ont envoyé les militants FTP, qu'ils ont livrés soit aux Allemands, soit qu'ils ont envoyé à la guillotine. À la guillotine, hein. Pensez au chef de la 35e brigade espagnole qui a été liquidé à Toulouse comme communiste, juif et étranger. Ça faisait beaucoup, hein. Voilà. Lui, effectivement, c'est une victime de l'épuration sauvage. Parce que les héritiers du résistant vont l'exécuter. Mais il a des successeurs. Et des successeurs qui se retrouvent, s'ils sont trop compromettants dans leur ville, eh bien, ils se retrouvent ailleurs. Et ils deviennent, parfois sur place, parfois ailleurs, ils sont promus. Vous dites, c'est pas possible. Eh bien, allez regarder la confrontation des sources avec le terrible annuaire de Jean-Claude Farcy, qui vous est accessible à tous, puisqu'il est en ligne et que vous pouvez vérifier du siège de la magistrature assise, la magistrature debout, vous pouvez tout vérifier. Il n'y a aucune épuration de la magistrature, aucune. Et qui a assuré, autant que les policiers, la violence sociale, la violence politique, il faut le dire honnêtement d'ailleurs, autant qu'avant et autant qu'après. Car les grévistes de 1947-48, qui vont-ils retrouver devant les tribunaux ? Les mêmes. Alors c'est bien parce que, alors disent mes collègues, ah oui, mais alors, pour le coup, ils aiment la chronologie. Il y a eu une grosse évolution chronologique. Ah, en 1944, on ne tient pas le même discours qu'en 1946-47. Vous savez d'ailleurs, c'est la responsabilité, c'est comme les FTP pour la prise du pouvoir d'État, la responsabilité, c'est les soviets. Donc, la raison pour laquelle les Américains n'ont pas pu sortir comme il fallait leur texte, là, c'est parce que, voilà, en 1947, ils voulaient le sortir, mais c'était la guerre froide. Ah, oh, mais on ne pouvait plus rien faire avec la guerre froide. Mais on n'est pas du tout dans la guerre froide. En tout cas, pas officiellement déclarée. Hein? C'est vrai qu'elle est déclarée depuis novembre 1917, mais enfin, il n'y a pas de guerre froide. Et donc, vous regarderez les textes de ces magistrats. Et puis vous verrez s'il y a une différence sensible entre leurs argumentaires juridiques de fin 44 ou début 45 et 47. Vous me le direz, là, vous irez. Je dois vous dire que j'ai choisi quelques morceaux qui sont une merveille sur la manière de ne pas infliger la moindre peine à des présidents de sections spéciales, qui se retrouvent d'ailleurs, dont certains se retrouvent, procureurs généraux, mais il y en a, non quand même. On fait semblant de les rechercher, puis quelquefois on les trouve. Enfin, quelquefois on ne les trouve pas du tout, hein, parce qu'ils sont un peu cachés. C'est comme pour les enquêtes policières. Mes collègues ont évoqué, aujourd'hui, ils ont dit que les journalistes, ils avaient été pris les premiers, parce que figurez-vous que les autres, ils étaient à Sigmaringen. Ah bon ? Vous regarderez les enquêtes avec les policiers qui savent très bien où un tel se trouve à Paris, mais naturellement qu'ils ne vont jamais le chercher. Alors, on est donc dans cette conjoncture où, quand vous regardez ma chronologie à moi, qui n'est que la chronologie que j'ai trouvée dans les fonds BB18, ben, l'évolution chronologique, vous ne la trouvez point. Et puis alors, regardez donc l'évolution chronologique dans la littérature de la chancellerie, c'est-à-dire de tout l'appareil sur lequel théoriquement, ou pratiquement, règne le ministre de la Justice, fonction qui est affectée au lendemain de la guerre, vous le savez, essentiellement au MRP, qu'on dresse en grand parti résistant, mais que les communistes et, il faut bien le dire, la police appelaient uniformément machine à ramasser les pétainistes. C'est la formule communiste, mais il faut bien dire qu'elle faisait beaucoup rire la police qui trouvait qu'elle était très pertinente. Je vous renvoie d'ailleurs aux élites sur ce point. Et par conséquent, on se trouve dans une situation où le MRP, élément constitutif du gouvernement de Gaulle avant le retour à Paris et puis après le retour à Paris, gère les choses. C'est-à-dire de cette résistance tardive et, vous le savez, de bon aloi, les gens très bien, dirait Alexandre Jardin, qui, en apparence, se sont unis dans la résistance, parce que vous savez que c'est la saga de la résistance, ça, hein. Tout le monde s'aimait, tout le monde voulait libérer le territoire, Et tout le monde était d'accord finalement. Après, les désaccords sont arrivés aussi à travers, à cause de la guerre froide. Eh bien, d'ailleurs, à cet égard, j'ai choisi un dossier. Alors, j'ai choisi un dossier parce que ça fait plus de 70 ans qu'on se bagarre dessus. C'est le dossier René Hardy. Vous savez, ce dossier René Hardy, de cet homme qui a sauté avec un bras cassé des murs de 4 mètres pour s'en aller de Lyon vers des cieux plus cléments, et puis qui a voilà, été accusé d'avoir livré Moulin. Ah, alors ça dure quand même depuis 43. Et mon MRP des ministres de la Justice, ils la connaissent l'affaire, comme leur poche. Car tout le monde veille là-dessus comme sur le lait, sur le feu. Pourquoi? Parce que c'est une horreur, mais qui vous montre que les cassures de classe ont fracturé la résistance tout de suite. Parce que en résistance, l'histoire économique et sociale ne disparaît pas, bien qu'elle ait disparu des compteurs, je dirais, depuis des décennies. Elle existe quand même. Vous savez, c'est comme l'histoire et l'histoire de la lutte des classes, hein, qu'on imputerait à une invention de Marx, et quand même qu'il n'a fait que constater. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pour vous donner quand même un exemple chaud. Eh bien, comme d'ailleurs Barbie, qui est une absolue canaille, mais qui de temps en temps a dit un mot vrai, et notamment dans les années 80, comme Barbie l'a dit en 1983, aveux qui ont été mis sous le boisseau et qu'avait repris en compte d'ailleurs Péan, début 43, les choses se présentant très mal pour l'Allemagne et la nécessité étant de reconstituer tout de même les choses un peu à l'identique, on discute beaucoup entre Américains, Allemands et Français, bien sûr. Et donc, Barbie, qui est un des responsables du ZIPO-SD à Lyon, région particulièrement riche, vous le savez, le ZIPO-SD décide de prendre langue avec les chefs de combat, qui sont des résistants tardifs, qui sont des vichistes impénitents. Pensez à Bénouville, un des grands sicaires de la cagoule, et quand je dis un des grands sicaires qui a participé à la stratégie de la tension en 37 et participé à un certain nombre d'assassinats, et puis Frenet, qui n'a quand même été, je dirais, gaulliste que très tardivement. Ben, vous me direz, il a été ministre de Gaulle. Oui, mais enfin, coupe de Montville aussi. Donc, on prend langue. On prend langue et ça se traduit comment? Eh bien, ça se traduit par la saisie d'abord de Delestrin, et puis, très peu, juste après, par Moulin. Et sur quelle base? Eh bien, vous liquiderez ceux qui ne sont pas assez anticommunistes, ou ceux qui ne veulent pas fracturer la résistance sur les bases de l'avenir, et puis vous épargnerez les autres. Oh, vous direz, elle exagère. Ben, vous verrez les sources, hein. On s'est interrogé. Péan, qui n'est pas allé jusqu'au bout de son audace, paie à ses cendres, a tout de même cité cette lettre de Barbie. C'est-à-dire, j'ai discuté avec les chefs de la résistance, il ne dit que Bénouville. C'est un peu gênant pour Frenet, parce que quand même Frenet, après avoir présidé à tout cela, et après avoir d'ailleurs manifestement laissé sa compagne se faire harponner par les Allemands, pour des raisons que j'ignore, vous verrez le détail, Frenet s'en va à Alger. Et puis à Alger, De Gaulle est au courant. Il est impossible que De Gaulle ne soit pas au courant. Le système du BCRA est très bien fait. Il le fait ministre des anciens combattants, déportés, prisonniers, etc. Il n'a plus besoin de Moulin. Même Moulin le gêne. Moulin l'a servi comme la résistance communiste et comme le front de l'Est contre les Américains. Mais Moulin est très compromettant, précisément parce qu'il n'établit pas la résistance à l'aune des intérêts de classe. Ça ne se fait pas. Hein. Ça ne se fait jamais, ces choses-là. Et pour Moulin, vous savez par quoi ça s'est traduit, comme pour Delestrin, qui avait une vision j'allais dire, militaire de la libération du territoire. Voilà comment les ministres de la Justice, MRP, d'abord de Menton, qui avoue lui-même commissaire à Alger de la Justice, que la justice qu'il a organisée à Alger est une justice, est un fiasco total. Je le décris. Il y a un chapitre sur Alger. Je donne toujours cet exemple extraordinaire de la sincérité des efforts du Comité français de libération nationale dans la libération du territoire, puisque la pauvre commission, naturellement non exécutive, consultative, dite d'épuration, à une voiture pour couvrir les millions de kilomètres carrés d'Algérie, du Maroc et puis de Tunisie. Vous imaginez ce qu'on a envisagé comme épuration politique. Ne me parlez pas d'épuration économique, elle n'a même pas été envisagée sur le papier. Donc, et puis après lui, Tedjali, le ministre qui un jour à France Culture, devant Gélinet, a juré, parce que c'était un débat sur l'éviction des ministres communistes le 4 mai 1947, a juré que les Américains n'avaient jamais été mêlés à l'affaire. Et alors, comme j'avais prévu, en général, je viens avec des biscuits, comme j'avais prévu cette réaction de M. Tedjen, 88 ans, et une tête vraiment très verte, une excellente mémoire. Je lui ai sorti sa lettre du 14 mars 1947 à Bidault, dans laquelle il expliquait on va s'arranger avec les Américains sur un accord Sarrois du charbon, qui était un accord complètement bidon, vous le lirez dans le choix de Marianne, et puis comme ça, on va faire les réorganisations gouvernementales. Je dois dire que Tedjen, qui avait toujours eu beaucoup d'audace, je vais en citer un exemple, là, c'est trouvé quoi, et d'ailleurs, moi, j'ai été couac après pour le service public, puisque je n'ai plus jamais été invité. Pourtant, j'ai été très correct, j'ai lu une lettre. Je n'ai plus jamais été invité sur le service public, notamment par M. Gélinet. J'ai une fois, d'ailleurs, ou deux fois même, en 2010, mais pas plus. Tout ça pour vous dire que, quelquefois, avec de simples archives, lues avec beaucoup de calme, vous faites des ravages que vous ne pouvez pas imaginer comme amateur de vérité. Alors, je vous disais donc comment Tedjen, le calme Tedjen, alors lui particulièrement déchaîné, mais enfin comme son prédécesseur, puisqu'il lui succède en mai 1945, continue à arbitrer, à préparer l'affaire Hardy, déjà bien avancée à Alger, sur des bases d'autant plus aisées que dans les joutes électorales de 1946, il peut dire qu'un parti voulait tuer tous les notables, mais que, heureusement, avec un coup dans la nuque comme la Gestapo, vous savez qu'après c'est devenu comme les soviets aussi, et que, heureusement, grâce à lui, ça ne s'est pas fait. Les choses sont plus simples. C'était le boisseau général par les ministres MRP, puisque c'était rarement d'autres que des ministres MRP. Ah ben, me direz-vous, avec la SFIO, quelle sincérité dans la lutte épuratrice. Alors, la SFIO, qui avait été recrutée au ministère de l'Intérieur, parce qu'il n'est jamais de plus efficace combattant que ceux qui, d'une part, ont une base sociale et ouvrière, car la SFIO avait une base ouvrière et une base d'employés, et c'est absolument incontestable, et qui haïssait, il faut bien le dire, le PCF à l'égard du centre, de la droite et de l'extrême droite réunis. Alors, voyez, vous allez voir la volonté épuratrice de la SFIO avec un ministre qui a duré quand même jusqu'en 1946 et qui s'appelle Texier Adrien. Et puis il est parti ensuite parce que, ma foi, il a été très malade et puis il est mort. Et alors lui, il avait trouvé, je vous le signale parce que c'est quelque chose qui a fait consensus dans la saga collaborationniste. Alors lui, il avait trouvé que l'épuration sauvage avait fait 100 000 morts. Alors même mes collègues les plus excités par l'idée d'en découdre avec le PCF ne l'osent plus, ce chiffre. Hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure, tout le monde est à peu près d'accord sur les 10 000, sauf qu'on n'est pas d'accord sur la chronologie. Voilà. Donc tout était fait, il faut peut-être quand même que je ne sois pas trop longue et que je vous laisse le temps. Tout était fait. Ah, oh, mais tout de même, qu'avait fait de Gaulle, je l'ai déjà dit un petit peu, mais qu'avait fait de Gaulle pour contenter les Américains? Et il faut bien le dire, contenter la classe qu'il représentait, avec tout son caractère complexe, comme disent mes collègues, complexe. Alors vous savez, méfiez-vous. Quand on vous parle de complexité en histoire actuellement, c'est que les choses sont d'une simplicité biblique. Plus c'est simple, plus ils vous disent que c'est complexe. Ça n'était pas du tout complexe, avec les archives, tout est simplifié. Donc, disais-je, De Gaulle ne veut pas épurer. Tout son entourage est cagoulard. Il est probable d'ailleurs que si on ne trouve pas les dossiers relatifs à lui, on les a trouvés pour Mitterrand, qui a quand même fait beaucoup de ménage. Hein. Il est lié avec l'extrême droite, il est tellement lié avec l'extrême droite, vous le savez, que quelqu'un tout de même qu'il aurait pu agréer, comme Pierre Cotte, qui avait été un sincère partisan de l'alliance franco-soviétique et qui avait la prétention d'établir une véritable collaboration militaire aéronautique avec les soviétiques, sur des bases, non pas de classe, mais pour le coup sur des bases nationales, a été récusé et chassé de Londres. Bon. Donc, De Gaulle, bien entendu, et avec un coup de Merville, et je dirais tout ce qui va avec, bien entendu, De Gaulle ne va pas changer quoi que ce soit. On vous dit c'est parce qu'ils sont compétents. Alors, je ne vais pas m'engager dans ce débat, mais c'est évidemment un faux débat, parce que, comme disait Raymond Aron, je dirais la vedette de France Culture et de mes collègues. Le sage, la personne objective, qui nous dit en 1945 dans Esprit, certains auraient voulu faire une épuration en ravageant des classes, supprimant des classes entières, mais heureusement ça ne s'est pas fait. Alors lui, vous savez, le grand sage, regardez, cherchez Raymond Aron et France Culture, vous verrez, vous ne saurez plus, vous ferez une liste, c'est énorme. Hein, ils l'aiment tous, Baruch, qui en fait sa conclusion dans son ouvrage sur l'épuration, ils l'aiment tous, ils l'adorent. Bon, enfin, si vous lisez un homme aussi conservateur, il est vrai de lui, il n'a qu'une référence, un homme aussi conservateur qu'Éric Branca, qui est tout de même un excellent observateur, je dirais, de la dépendance américaine, de nos milieux politiques, qui, de la gauche anticommuniste à l'extrême droite, a émergé auprès des États-Unis. Je sais, ça n'est pas bien, ça n'est pas européen, mais c'est absolument formel. Et je dois dire qu'à cet égard, vous serez entièrement convaincu si vous réussissez à mettre la main sur un exemplaire pas trop cher de l'ouvrage traduit mais mis sous le boisseau de Madame Frances Saunders, La guerre froide culturelle, vous verrez qu'il est un de ceux qui ont le plus émargé, car non seulement il avait tous les avantages, remarquez, c'était le cas de tous ceux qui étaient engraissés. Il avait ce double avantage, certes, de détester les communistes, mais tout le monde est d'accord là-dessus, mais de détester De Gaulle aussi. Parce que vous avez une série de gaullistes qui ne sont gaullistes que quand on ne connaît pas la chronologie ni les archives. Donc, disais-je, notre modèle de sagesse et d'objectivité nous a dit qu'on n'allait tout de même pas se débarrasser des gens compétents. Alors, qu'est-ce que vous faites, évidemment, quand les gens compétents... Vous savez bien, c'est ce qui, théoriquement, a présidé à la réfection, si je puis dire, de l'Allemagne occidentale. Ils étaient compétents en police, extrêmement compétents. Ils ont tous été maintenus. Hein. Ils étaient compétents en affaires. Alors, bon, vous me direz, mais mon Dieu, comme nous disent nos historiens français dominants, ce qui intéresse les industriels et les financiers, c'est l'efficacité. Ils ne font pas de politique. Que la population ne fasse pas de politique, c'est sa responsabilité. Et il y en a quand même une grande partie qui n'en fait pas. Mais ces messieurs en font. Ils en font tout le temps. Et quand ils dorment, il y en a d'autres qui font la dite politique pour eux. Alors, bien entendu, c'était les principaux financiers d'Hitler, et puis depuis Belleurette, pensez depuis 1923. L'industrie lourde affectait une partie de son chiffre d'affaires au NSDAP. Vous direz, elle se trompe d'au moins 10 ans. Non. Depuis 1923, parce que le NSDAP cassait les grèves partout. Ça, c'était sympathique. Puis après, dans la lutte contre l'invasion de la Ruhr, vous pensez bien si le NSDAP a été le plus efficace. Et puis alors, ces gens-là, comme disent mes collègues, même ceux qui ont bien examiné les choses, enfin, les Américains, les Anglais et les Allemands, même quand ils trouvent toutes les excuses possibles, au moins, ils avancent des sources. Vous voyez, là, on est presque toujours d'accord. Et qu'est-ce qu'ils nous montrent ? Ben, c'est un peu dommage parce que voilà, ils étaient obligés, ils manquaient de main d'œuvre. Forcément, j'ai une partie de la main d'œuvre qui était sur le front russe. Qu'est-ce que vous voulez faire quand il vous manque de la main d'œuvre? Eh bien, ma foi, vous avez besoin de main d'œuvre forcée. Alors vous allez la recruter. Alors ils étaient criminels de guerre, puisque non seulement ils s'appuyaient sur le STO généralisé, mais vous savez que les Juifs, on n'était pas obligés de les éliminer tout de suite, ou les Slaves. Hein, on pouvait d'abord les utiliser pour travailler. Donc utilisation de la main d'œuvre esclave, financement des organisations hitlériennes et puis depuis Belleurette, entre autres, plus un palmarès qui fait, il faut vous le dire, de la grande industrie, de la grande banque allemande, comme chez nous d'ailleurs, la principale responsable du nazisme et la principale bénéficiaire du nazisme. Je vous rappelle cette grande phrase du chef de la dynastie existant, enfin vivante encore, Alfred Krupp, disant au procès de Nuremberg, sur lequel on vous a dit beaucoup de bêtises, quand on achète un bon cheval, on n'y regarde pas à quelques défauts. Donc, bien entendu, compétent, de telle sorte qu'il a été très bon de leur rendre toutes leurs affaires, et bien vite. Et je ne vais pas vous faire tout le reste, parce que moi, j'ai démontré, je crois maintenant, qu'on n'a pas rénové la magistrature, mais vous savez que non seulement c'est grandiose, mais que pour l'Allemagne, c'est connu depuis longtemps. Mais mon malheureux collègue, chez mon éditeur d'ailleurs, Colin, qui en 2006... et qui est une personne tout à fait modérée, raisonnable et républicaine, cependant. Alfred Wahl, qui a fait un excellent bouquin, et d'une grande modération, je vous l'assure, sur la seconde histoire du nazisme, où il recense toutes les catégories, du grand capital à la magistrature, en passant par l'université, etc., eh bien, a montré que les mêmes étaient aux affaires. Avant mai 1945 et après mai 1945. Voilà comment ça s'est fait, pareillement, chez nous, au motif que tous étaient compétents. Enfin, vous remarquerez d'ailleurs que dans les pays où on n'a pas considéré qu'il fallait les conserver parce qu'ils étaient compétents, vous voyez bien d'ailleurs l'espèce d'escroquerie que ça représente. Vous laissez les mêmes en haut. Vous n'allez pas leur demander de se faire harakiri. Ils sont en haut. Ils ne vont pas changer les choses qui vont très bien, qui sont allées très bien de 1933 à 1945, ou qui sont allées très bien de 1938 à 1944. La question ne s'est pas posée dans les termes. Ils sont compétents. Ils sont là. On les a tous préservés. Ils sont là. Ils demeurent. Hein ? Lisez donc Le Guépard avec le changement en moins et vous comprenez la situation de la France. Finalement, un des plus magistraux développements sur l'histoire de classe c'est cette analyse italienne qu'a faite Lampedusa, dit Lampedusa dans son extraordinaire roman posthume. Bien. Alors chez nous, donc, eh bien, tout s'est fait comme prévu, avec un De Gaulle quand même qui avait donné des engagements aux Anglo-Américains. Parce que les Anglais et les Américains ont demandé à De Gaulle de donner des gages. Ah, alors il les a donnés, j'explique comment. Fin 43, début 44. Mais il a éliminé Pucheux. Il a éliminé Pucheux, vous a-t-on dit, parce que je pense que vous avez été sensible à la littérature récente sur Pucheux. C'est à vous arracher des larmes de sang. Je vous recommande, à la bibliothèque, je vous recommande biographie très sélective, très très sélective, et entièrement constituée de littérature a posteriori, l'ouvrage d'Antonovitch, avocat, je ne sais pas si on peut dire que c'est un bon avocat, mais c'est un très mauvais historien, sur Pucheux, dont il vous dit que c'est un patriote, un homme magnifique. D'ailleurs, il ne détestait le PCF que parce qu'il était patriote, car il était anti-allemand. Bon, enfin, révisez quand même les sources et le reste, et vous verrez que ça n'est pas le cas. Mais ça vous indique quelque chose tout de même sur l'historiographie. Vous me direz, Antonovitch n'est pas historien, mais toute l'historiographie, alors là, est dans les lamentations sur ce pauvre Pucheux, victime de la vindicte des communistes en mars 1944, avec un procès qui annonce l'épuration sauvage. Ben non, pas du tout. De Gaulle l'a éliminé parce qu'il était un symbole de la tutelle que les Américains voulaient établir sur la France, qui était une sorte d'avertissement. Écoutez, ce sera le dernier, mais celui-là, je vous indique quand même que vous ne mettrez pas à ma place. Voilà pourquoi il a été tué. Vous voyez, le communiste est quand même très utile. Hein? Ça sert à tout. Et là, en l'occurrence, ça a servi à nous dire que la pression sur De Gaulle avait été effrayante. Eh bien, ma foi, ce que je vous ai dit de la magistrature, c'est ce, vous imaginez, qui a présidé au renouvellement de la police et des institutions attenantes, allais-je dire, notamment les préfets. Donc j'ai évoqué tout à l'heure la lutte contre les terroristes, il faut bien dire aussi la lutte contre les juifs, là aussi, hein, ils ont éliminé beaucoup de matériaux. Mais il en reste. Donc, la terminologie, les différences entre préfets, vous mettez au rebut. Hein. Ça, c'est de la reconstitution a posteriori. Et alors, vous avez une conviction que nous avons établie, évidemment, qui nous est établie sur des bases moins systématiques que celle de Jean-Claude Farcy, parce que nous ne disposons pas de la carrière reconstituée ou de la carrière poursuivie de tous les policiers. Mais ce que nous savons, c'est que la police est restée telle, parfois dès 44, 45, alors à partir de 47, 48, mais Reifus l'avait dit avant moi, fort honnêtement, sans avoir lui non plus la statistique exacte, il faut que vous en tiriez la certitude que Papon n'est pas une exception. Papon est la règle. D'ailleurs, je ne m'appuierai que sur Papon pour vous faire observer que le commissaire de la République, considéré comme un grand résistant de Bordeaux, a fait de ce secrétaire général de la préfecture, de ce direct collaborateur du préfet régional Sabatier, un préfet, donc l'a promu, en arrivant à Bordeaux, et en a fait son directeur de cabinet. Eh bien, vous avez le symbole de ce qui a été la totale continuité de l'appareil d'État. Et ce, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, alors que les États-Unis étaient là, alors qu'en Europe présidait à la réfection, si je puis dire, un certain Moulin-Delos, que vous connaissez pour son rôle dans la baie des cochons, qui a d'ailleurs terminé sa carrière, mais qu'on ne connaît pas forcément comme le représentant de Roosevelt à partir de novembre 1942 à Berne, où il réorganise l'Europe comme elle doit être, et vous me direz surtout l'Allemagne, entourée de nazis officiels et de nazis et de Zentrum nazifiés. Après quoi, d'ailleurs, il ira s'occuper directement de l'Allemagne en quittant Berne à la fin de la guerre, mais qui arrose aussi notre résistance tardive, anticommuniste, je dois le dire, sans a priori, puisque de la SFIO jusqu'à l'extrême droite, eh bien, ces messieurs touchent 25 millions par mois, ce qui est quand même pas mal, non pas pour chasser plus vite les Allemands, mais pour être sûr que la résistance intérieure n'aura pas trop d'exigences à la fin et évidemment évitera ces rénovations tout à fait fâcheuses, alors que il est tout à fait nécessaire de continuer les choses comme devant. Et bien entendu, et pour des raisons qui ne tiennent pas seulement à la pression, la complicité franco-américaine a été totale dans la non-poursuite de gens qu'on pouvait arrêter, dont on connaissait l'adresse, qu'on n'a pas poursuivi. Et je donne un certain nombre d'exemples, parmi lesquels le cas de Marcel Déa, qui est une espèce de symbole de la complicité de la France et de la totale alliance entre le Vatican, grand, je n'en ai pas parlé ici, mais j'en parle dans le livre, vous le savez, grand nettoyeur de nazis, et qui a organisé l'exfiltration, recyclage des criminels de guerre, non pas à partir de 1944, mais à partir de 1942, année où, depuis plusieurs mois, en janvier, à partir de janvier, on était sûr en effet que la guerre ne serait pas victorieuse pour le Reich. Autrement dit, pour laisser un peu de temps à la discussion, de la chronologie, de la source originale, de l'histoire de l'occupation et de l'histoire de la libération conforme aux sources et à la chronologie, sort un autre tableau que celui qui vous est quotidiennement fait et, je dirais, répété à la télévision et à la radio. C'est contradictoire avec ce qui règne ? Eh bien, la vérité historique, elle sort des sources, elle ne sort pas des émissions de télévision. Et par conséquent, eh bien, nous pouvons discuter d'un nouveau tableau de cette période qui aurait été une période de cauchemar, finalement la période la plus pénible de l'histoire de la France de 1944, qui aurait succédé à la libération de Paris ou qui l'aurait accompagnée. On peut être tout seul et avec... l'appui des sources et de la chronologie avoir raison. Et d'ailleurs, il s'avère, ailleurs qu'en France, que ce discours historique est quand même assez répandu. Il restera à la conjoncture de réaliser des conditions générales qui permettront à la vérité historique de s'installer avec un peu plus de confort que ces 20 ou 30 dernières années. Je termine.
Bon, merci, cher ami. Et voilà, on a un temps de, voilà, d'échange, de discussion.
On a jusqu'à 8 heures, hein,
je crois. Jusqu'à 8 heures, grand maximum, je crois. Hein.
Oui, ouais, voilà. Maximum.
Alors, une, deux, vous voulez commencer, je vous donne la parole.
Je suis un petit mot pour dire, j'ai hâte de lire ton livre.
Ah, c'est lui déjà.
Bon. Alors, oui. Ma question concernant l'épuration, jamais...
Peut-être un peu plus fort pour que le fond de la salle...
Oui, dans vos propos sur l'épuration, les différentes émissions que vous pouvez regarder sur Internet, jamais vous ne parlez de l'épuration des cadres militaires.
Ah, alors...
Et encore pas ce soir. Alors, est-ce que c'est faute
C'est dans le livre. Parce que, je l'ai dit d'ailleurs, c'est vrai, je n'ai pas discuté par catégorie, mais je dirais presque que c'est avec le haut clergé l'exemple le plus spectaculaire du non-choix. C'est avec la magistrature, la préfectorale et la police, et le haut clergé, c'est grandiose. L'exemple le plus caricatural, et je fournis un texte, il faut vous dire, il est assez long, mais il était tellement savoureux que je n'ai pas pu y renoncer. Je vous fournis en 1943 un texte de Soustelle qui explique ce qu'est l'armée d'Afrique du Nord. C'est-à-dire une armée vichiste jusqu'à l'os, qui a été collaborationniste jusqu'au bout. Atroce, mais alors je dirais du sergent au général. Et on ne touchera pas un cheveu. Alors je le montre un peu, mais il faut vous dire que normalement, ce serait l'objet, s'il y a lieu et si mon éditeur agrée ce projet, d'un prochain livre. Alors les éléments en apparaissent là, mais d'un prochain livre qui portera spécifiquement sur le retour en gloire ou le maintien en gloire de nos élites, dont les élites militaires forment une espèce de sommet. Mais vous voyez que le sommet est très occupé entre la magistrature et tous les éléments que je viens de définir. On se demande pourquoi il y a eu quelques changements à la Libération. Bah parce que quand même, il y avait, vous le savez, un rapport de force général qui obligeait à certains ménagements. Mais voilà, dans le livre, vous trouverez écho de ce grand pardon spectaculaire. Et alors, ne manquez pas, allez regarder tout de suite dans l'index, regardez Soustelle, parce que son texte est un chef-d'œuvre. De Gaulle aux chiottes, je cite, hein, à mort de Gaulle, etc. Alors, regardez le symbole de ce chouchou des États-Unis, mais en fait, ils sont tous chouchous, qu'est Juin. Vous savez, le futur maréchal moderne colonial, s'il en fut, d'ailleurs, j'ai fait son portrait dans un ouvrage très ignoré qui s'appelle « Les protectorats d'Afrique du Nord entre Paris et Washington », vous savez, qui traitait les rouges de vermine, etc., a discuté avec Göring en janvier 1942 de la mise à disposition du Reich de l'ensemble de l'Empire. Oui, oui, c'est le même. C'est pas un homonyme, c'est Juin. Voilà.
Il y a...
Merci pour cet exposé, parce que toujours vous fournissez une foule de renseignements basés sur des archives, et c'est, il n'y a pas à discuter, la vérité est là. Bien. Et maintenant, ma question c'est au niveau de cette fameuse épuration. Donc vous avez parlé d'épuration sauvage, cette épuration légale, mais est-ce que en conclusion de votre exposé, vous l'avez juste un petit peu esquissé, de se concentrer sur cette formulation d'épuration, ça ne risque pas de masquer, de cacher le fait que toute cette période, depuis on va dire 39 jusqu'à la fin des années 40, on a une phase de lutte de classe très très intense qui s'inscrit dans le cas pendant une période il y a cette occupation. Et donc, face à l'occupation, la résistance. Mais ça s'inscrit dans un cas de cette lutte de classe très vive qui a pris une forme de guerre civile en France depuis 40-41 jusqu'à 45. Et donc, cette guerre civile, d'un côté, on a l'essentiel de la bourgeoisie qui s'est appuyé sur l'Allemagne et qui voulait aller s'appuyer sur l'Allemagne parce qu'il vaut mieux faire que le Front populaire. Et de l'autre côté, essentiellement les forces populaires qui reconnaissent comme direction le Parti communiste et une petite fraction, au démarrage, une petite fraction de la bourgeoisie, représentée politiquement par De Gaulle. Et il s'avère que la direction politique de cette alliance, elle est bourgeoise. Et donc, à partir de là, tout le développement qui s'ensuit, c'est la bourgeoisie est obligée, pour se renforcer face au camp du peuple, de prendre toutes les autres forces qui ont été du côté d'Allemagne dans un premier temps, et qui graduellement reviennent, et évidemment, De Gaulle leur ouvre les bras. Donc, cette forme d'épuration est centrée là-dessus, même si le débat avec les historiens est posé sur ces bases-là, il faut bien répondre à cette manière dont ils ont de poser le problème. Pour moi, masque un petit peu cette violence de la lutte efface.
Alors, écoutez, c'est une problématique très intéressante, mais c'est une problématique qui est faussée. Il n'y a pas eu de guerre civile en France, je dirais même, il n'y a pas eu de guerre civile en Espagne. Il y a eu une guerre étrangère. Le rapport des forces en Espagne est un rapport des forces serrées, mais sans l'intervention étrangère, il n'y a pas de guerre en Espagne. Or, vous le savez, c'est un aspect qui nous est entièrement masqué, puisqu'on n'a plus à la télévision, voire même au cinéma, et même Kenmoche s'y est essayé, finalement, qu'une guerre d'Espagne exposée en termes de, par exemple, lutte contre les méchants communistes, le Marti, qui veulent liquider tout le reste. Non, ça n'est pas ça. Il faut lire les archives allemandes et se rendre compte de ce que c'est que l'enjeu espagnol. L'enjeu espagnol, c'est un conflit interimpérialiste et c'est un conflit pour rafler les richesses de l'Espagne et, en ce qui concerne l'impérialisme allemand, s'engouffrer dans les empires des impérialismes rivaux. C'est une dimension qui est essentielle que cette lutte interimpérialiste et vous le savez, qui a été masquée par des problématiques comme celle de Nolte, qui s'est ensuite, je dirais, découvert dans la mesure où Nolte avait un objectif politique d'extrême droite qui était très clair. Mais vous le savez qu'il y a beaucoup d'étonnement chez nous, puisque Furet s'en est emparé, a dit qu'il était très bien, et a développé cette thèse de la guerre civile qui aurait duré je ne sais combien de décennies. Mais pas du tout. D'abord, pour qu'il y ait guerre civile, je dirais qu'il faut qu'il y ait deux camps. Qu'est-ce qui s'est passé de 1938 à 1944. Et moi je dis de 1938, puisque je me suis chargé avec l'ouvrage de Dominique Avichy de démontrer qu'il y a, il n'y a pas de discontinuité, il n'y a pas de solution de continuité, au contraire de ce qu'on nous a raconté, entre la phase de la Troisième République finissante et Vichy. Je crois l'avoir démontré, personne d'ailleurs n'a jamais contesté. Le livre a été enterré, mais je n'ai pas eu d'attaque sur des archives fausses ou une manipulation des archives. Donc il n'y a pas de guerre. Quand le Front populaire s'installe, la classe ouvrière, elle a à peine bougé le museau depuis 1934 et très peu. Et tous les projets de fascisme sont des projets qui sont antérieurs au Front populaire. Il faut le dire, ça. Ce n'est pas vrai que c'est la réaction populaire qui a introduit le fascisme en France. Je vous signale que le fascisme n'a pas connu de forme plus dictatoriale et plus terroriste, comme disait le chef de la Troisième Internationale, Dimitrov, qu'en Allemagne, où il n'y avait pratiquement pas de force de résistance. Il y avait un parti communiste très fort, à base ouvrière et avec un certain nombre d'intellectuels, mais il était d'un isolement remarquable. Il y a d'ailleurs une série d'articles du grand journaliste et, je dirais, tout à fait conservateur, Nick Bocker, dans une série de journaux américains sur la situation allemande en 1932 et qui annonce d'ailleurs clairement la couleur, hein, c'est-à-dire que les États-Unis sont favorables à la solution hitlérienne. C'est pas du tout une guerre de classe. C'est une guerre de classe pour obtenir des conditions d'exploitation féroces qui étaient les conditions rêvées en Allemagne puisqu'en Allemagne, on est arrivé à 16 heures de travail par jour, sans autorisation administrative. C'est bien ça. L'Allemagne, c'est le paradis de la guerre sociale, mais pas entre deux camps, je dirais, si vous voulez. Une guerre, est-ce qu'il a existé, d'ailleurs, depuis la Révolution française, une pure guerre civile? Aucune. Depuis qu'il y a eu les révolutions, les classes mises en cause sont allées chercher leurs soutiens extérieurs, mais ces soutiens extérieurs, ils se sont traduits par une invasion du territoire. Et ça veut dire que, en ne mettant l'accent que sur une présumée guerre civile, c'est-à-dire finalement un camp qui lutte efficacement contre l'autre et inversement, on efface toute la question des rapports inter-impérialistes. Hitler n'est pas allé en Espagne pour liquider, ce qu'il a dit, pour liquider les Rouges. Il est allé pour piquer les pyrites de fer. Enfin, Hitler, ce qu'il y avait derrière, hein, c'est-à-dire le grand capital allemand. Et il y a dans ces guerres du 18e, du 19e, du 20e, une dimension nationale qui est d'ailleurs liquidée, de plus en plus liquidée par la phase impérialiste du capital, qui effectivement bascule les nécessités nationales. La bourgeoisie nationale cesse d'être nationale. Il y a un chef de DRG, je crois que c'est à Rouen, dont je cite plusieurs courriers dans Industriel et Banquier, qui est extraordinaire, qui dit bon, ben maintenant que les carottes allemandes sont cuites, la bourgeoisie n'en peut plus d'impatience, parce qu'elle considère que le soldat américain et le soldat anglais sont les gardiens de leur coffre-fort. Or, il y a, vous avez raison, c'est une dimension de classe, mais il y a une dimension nationale d'une ampleur considérable dans la Deuxième Guerre mondiale, donc, y compris en France. C'est-à-dire que évoquer une guerre civile qui aurait fait que finalement tout le monde peut s'arranger et tout ça, c'est oublier les enjeux impérialistes de la guerre, parce que la Deuxième Guerre mondiale a les mêmes enjeux impérialistes que la Première Guerre mondiale, et c'est oublier qu'à l'ère impérialiste, encore plus qu'au XVIIIe et au XIXe siècle, la dimension nationale du combat est une dimension importante. Quand je le montre longuement dans le livre, ce qu'est, en fait, les préfets le reconnaissent, la lutte. Après, on peut discuter, hein. On peut trouver que la lutte communiste sur une base nationale a violé les impératifs de classe. Enfin, moi, qu'on trouve des gens qui sont menés la lutte nationale, ont fait la révolution quelque part au XXe siècle. Hein. Je vous signale que la Chine, la victoire du communisme chinois, c'est une victoire aussi contre l'impérialisme japonais et les autres impérialismes. Hein. Bon. Les préfets disent, ne disent jamais que les communistes veulent tuer les notaires. Quelquefois ils le disent, mais qu'est-ce qu'ils disent? Ils préparent le débarquement. Ils ne préparent pas le débarquement parce qu'ils aiment les Américains. Ils préparent le débarquement parce qu'ils considèrent qu'un ennemi qui vous vient sur le sol, il faut le chasser du sol. Alors il faut bien dire que toute notre analyse sérieuse issue de la Deuxième Guerre mondiale, de la libération, a été balayé par ces espèces de perspectives européennes qui balaient toute la vérité historique. Je vous donnerai un exemple. Un de mes collègues, je dirais un de ceux qui ont conduit la croisade contre la Croix-Rousse en disant que Industriel et Banquier c'était n'importe quoi, que j'écrivais n'importe quoi, etc. C'est quand même quelqu'un qui, dans un colloque de 1997, auquel moi je n'étais pas invité, avait dit que le STO, organisé par Kuhlmann avec les usines de Liguefarben-Kuhlmann qui avaient formé ce magnifique Francolor où le capital français représentait 0,01% et le reste pour le capital allemand quand il s'agissait d'échanges de capitaux, c'est-à-dire que les capitaux allemands représentaient 51% de Kuhlmann, mais le capital français représentait 0,025% du capital de Liguefarben. Ça vous donne une idée des enjeux. Eh bien, dans ces circonstances, on est, vous le voyez, avec une dimension nationale qui a été oubliée maintenant. Mon collègue disait, eh bien, le STO, dans ce cadre Kuhlmann-Liguefarben, c'était des voyages techniques. C'était des échanges techniques. Alors, mes collègues allemands avaient été un peu saisis, hein. Mes collègues français n'étaient déjà plus saisis il y a 20 ans. Mais mes collègues allemands, vous voyez, ils avaient un peu manqué d'air. Mais soyons sérieux. Non. Bien sûr qu'il y a une dimension, on le voit bien d'ailleurs, l'affaire René Hardy, c'est une affaire de classe. La liquidation de Lestrin et Moulin, c'est vrai, c'est une affaire de classe. Ça les obsède. Mais non. Il faut introduire, parce que c'est une donnée, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, c'est une donnée majeure. Le mouvement de résistance grec est un mouvement, certes révolutionnaire, qui veut changer les choses en Grèce, mais c'est un mouvement national. L'histoire de la nation entre le XVIIIe siècle et le XXe siècle, ou le XXIe siècle, on verra les suites, en tout cas, entre le XVIIIe siècle et le XXe siècle, c'est une dimension nationale qui passe d'une classe aspirant à l'hégémonie à une autre classe. Et l'oublier, c'est oublier les sources. C'est oublier ce qui se dégage. Écoutez, je vais vous donner un exemple que je donne dans le livre, qui est un texte extraordinaire d'Abetz, qui explique en 41... pourquoi il faut dire que les résistants sont tous des juifs et des étrangers? Parce qu'il n'y a rien de plus dangereux que de dire aux Français que la résistance est une résistance française et nationale contre l'ennemi allemand qui a occupé le territoire. Il nous dicte quand même une partie de la problématique. Non, la guerre, la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale n'ont pas été des guerres de classe, comme le disait Nolte, qui a fini chez les nazis officiellement. Non. Ça a été une guerre qui a eu aussi une dimension nationale, et ce qui est la tâche de l'historien, c'est de montrer l'articulation entre les questions de classe, les enjeux de pillage impérialiste, parce que vous savez, finalement, la Deuxième Guerre mondiale, on l'a sous-estimée. Et pourquoi on l'a sous-estimée ? Parce qu'il fallait montrer que finalement, ça n'avait pas été du tout une guerre comme avant. Mais enfin, lisez Heischholz, qui est l'historien de l'économie de guerre allemande, hein, qui a fait un travail comparatif sur l'enjeu pétrolier dans la Première Guerre mondiale et l'enjeu pétrolier dans la Deuxième Guerre mondiale. Inutile de vous dire que ça n'est pas traduit en français, hein. C'est traduit en anglais pour le deuxième, c'est-à-dire l'enjeu pétrolier de la Deuxième Guerre mondiale. C'est pas traduit en français. Voilà. Nous avons ceci à mettre en... Nous avons, nous, le devoir, bons historiens, bons amateurs d'histoire, de faire fonctionner les rapports. Eh bien, ces rapports, ils existent, et ce n'est pas vrai, ce n'est pas une guerre civile que la guerre française. Ce n'est pas vrai.
Merci. Alors, je vais... Oui. Vous l'avez demandé la parole.
Oui.
Ensuite, je viens marquer.
Je vous remercie, Madame Farid. C'est toujours lumineux. Vous êtes quand même sur beaucoup de choses. Moi, j'ai une petite question. D'abord, je voulais savoir de quel Tejen vous parliez à un certain moment?
Paul-Henri. Mais le frère, qui n'a pas été ministre, oui, n'était pas de sentiments foncièrement différents
Oui.
Voilà. Et il a été un homme politique aussi.
Oui. Très bien. Et quel était son intérêt quand il a voulu assurer une alliance avec les Américains?
Grande question. Écoutez, j'ai un collègue anglais dont le nom m'échappe, là, j'aurais dû vérifier parce qu'on ne le parle.
Peut-être on prend l'autre question, comme ça tu réponds.
Non. Je vais d'abord répondre à lui. Je vais essayer d'être à l'aise. Je vous résumerai juste par une intervention très courte. Mon collègue qui a fait un ouvrage très intéressant sur le patronat français de 1936 à 1945, il est cité dans des tas de mes bouquins, en particulier dans l'industrie et les banquiers, il a fait l'analyse très logique que plus on était pro-allemand, plus on est devenu pro-américain. Pour une raison très simple. La grande bourgeoisie, je l'ai analysé plus en détail dans une communication parue dans la revue Droit, dans le cadre d'un colloque de juristes auquel je participe depuis 3 ans, bon, les juristes m'invitent pas les historiens, mais juristes, dans laquelle je fais justement une analyse de ce phénomène. La bourgeoisie française ressemble énormément à la bourgeoisie italienne. Vous savez, on se moque facilement de la bourgeoisie italienne qui s'appuie sur n'importe qui, mais la bourgeoisie française est pareille. Quand vous redoutez votre peuple, comme la bourgeoisie et l'aristocratie italienne redoutent le peuple italien, par exemple dans les émeutes de Turin 1898, on a des textes de diplomates qui sont des chefs-d'œuvre. Évidemment, les classes dirigeantes sont prêtes à se jeter dans les bras de l'étranger. Quand vous n'assurez que... On ne sait pas, mais la grande bourgeoisie allemande a accueilli les troupes françaises, parfois comme des libératrices en 1918, partout où se formaient des soviets, des conseils d'ouvriers et de soldats. Et par conséquent, cette dimension est une dimension essentielle que j'ai analysée dans beaucoup d'ouvrages, et notamment dans l'ouvrage sur les élites. Vous avez peur de votre peuple, vous avez besoin d'un tuteur. Eh bien, le tuteur, c'est l'Allemand. Parce que la classe bourgeoise ne s'est pas du tout trompée en France, la grande bourgeoisie ne s'est pas trompée sur les États-Unis. Elle a cru que les États-Unis étaient, comme l'Allemagne, un moment peut-être, elle a cru que les États-Unis étaient prêts à partager. Mais un impérialisme dominant est un impérialisme qui est le partage. Il veut tout. Il veut tellement tout qu'il est sûr qu'il aura tout. Et que l'ambassadeur Harriman, en mars 1944, disait à ses responsables américains, donc Roosevelt, son département d'État, et Roosevelt, donc à Cour de l'Halle, et Roosevelt, l'Union soviétique est tellement pauvre qu'on réussira à ne pas lui accorder une zone d'influence. Voilà, là pour le coup, on retrouve les éléments majeurs de l'histoire de classe. Et comme dit mon collègue, eh bien, ils étaient pro-américains, pro-allemands, ils sont devenus pro-américains. Parce que les États-Unis, ils ne voulaient pas laisser l'Europe à l'Allemagne. C'était bien trop. Et donc, voilà comment les choses se sont faites. Et on retrouve l'articulation des problèmes de classe et leur légitimité par rapport, évidemment, à d'autres instances.
Ensuite,
bonsoir Ali. J'aurais une remarque, une question, pas une ajout, une question. J'étais très ami avec Michel Chaubert, et lorsque Coudemur est mort, il a montré l'article sur la nécrologie dans Le Monde, oui, en disant tout est fou là-dedans. Donc Couv est rentré en résistance par le dragon lit et il m'a dit c'est Couv de Murville qui a fait venir Pucheux pour le livrer à mort.
C'est bien. Moi je n'ai jamais trouvé de source là-dessus, hein. Mais que ces messieurs se soient fait des coups en jambe là, un coup en jambe important, ça, je suis prêt à le croire. Hein,
ma question concerne Moulin et la Ferrardi. Donc, est-ce que tu voudrais dire, parce que tu as entendu que ce sont les Américains qui ont finalement poussé le réseau combat à donner.
Ah, mais bien sûr
à donner,
c'est-à-dire que Davet. Absolument. C'est Davet qui est en contact avec. Alors, Davet, merci. C'est Davet, c'est-à-dire un militaire vichiste, là aussi un soi-disant grand vichisto-résistant, qui est en fait un vichiste en accord avec Vichy, qui est passé au service, nous dit-on, de résistance de Suisse, c'est-à-dire le service financé par Hollande de l'Est à Berne, qui passe sans arrêt de la France, de Vichy à Berne, avec toutes les autorisations allemandes et de Vichy nécessaires. Donc c'est en négociation permanente avec Davet, Bénouville, Freinet, que se trouve Hollande de l'Os. Et d'ailleurs, si vous lisez les ouvrages de Belot, qui veut absolument démontrer que Freinet et Bénouville sont des sincères gaullistes, il vous trace un portrait qui est incompréhensible, c'est-à-dire que tous les jours, il y a des contacts entre Davet, Delos et les deux autres pour savoir où on en est sur Delestrin et Moulins. Et puis tout d'un coup, il y a un trou. Ils ne rendent pas compte. C'est-à-dire que là, pour le coup, il y a un manque de sources. Il y a un manque de sources, bien entendu. Delos déteste De Gaulle autant que les communistes. Finance n'importe qui sur cette base, et le principal intéressé, ou un des principaux intéressés, à la liquidation de deux hommes, d'abord parce que Freinet veut la place de Delestrin, et parce que les autres trouvent que Moulin, comme Delestrin, n'est pas assez anticommuniste, et par conséquent, tout ça s'est fait en liaison avec Hollande de l'Os, oui. Et les tractations de Barbie sont des tractations, comme je l'ai montré dans les élites, ce sont des tractations entre Américains, Français et Allemands qui ont été permanentes à partir de 1942. Je vous signale que Giraud a fait rigoler toute l'Europe de niveau élevé, puisque la légende de sa fuite de la forteresse de Prusse orientale où il était enfermé, lui faisait parcourir 60 mètres avec une corde. Que dame, que la générale aurait transmise avec des colis de vivres à son mari. Bien entendu, non. Ils font fuir Giraud, parce que Giraud est va être l'homme des Américains. Toutes les années 42-45 sont des années que j'ai définies comme des années de retournement des fronts. Et donc, tout le monde est d'accord, mais vous savez que ça, s'ils avaient pu, ils l'auraient fait, le retournement des fronts. Ils y étaient tout à fait. Mais il a existé, le retournement des fronts. C'est de l'os. Et l'alliance avec les Allemands en Italie. Alors là, maintenant, on a complètement éclairci l'affaire, hein, c'est-à-dire l'affaire de la capitulation unilatérale en Italie. Alors vous vous dites, anticommuniste, tout ça, vous savez pourquoi? Ce qui s'est passé, c'est qu'on a passé à corps, Deleuze a passé à corps, Deleuze et tout l'appareil du département d'État et des services, ont passé à corps pour que les Allemands fussent en mesure de tenir le terrain jusqu'au bout, comme Churchill en Grèce d'ailleurs, hein, puisque ça s'est fait comme ça en Grèce, de telle sorte que le territoire, c'est-à-dire l'Istrie, y compris Trieste, port essentiel, fût dévolu à la zone anglo-américaine. Comme dans l'affaire, comme dans toutes les affaires de ce type, les Anglais se sont fait taper le bec dans l'eau, mais ils ont aidé à tout. Donc c'est pas une affaire de guerre froide, de ceci, de cela. C'est que l'Istrie devait être yougoslave et qu'elle ne l'a pas été. Donc vous avez un Deleuze qui est le grand organisateur, le chef de l'OSS Europe, je crois que j'ai oublié de le dire, et qui est chargé de toutes les basses opérations qui sont essentielles dans la conduite de la haute politique. Et bien entendu, il est informé au jour le jour de l'affaire de l'estrin Moulin. Vous avez beaucoup de trous, mais vous allez voir, que, parce qu'ils ont vidé, le dossier bébé 18 sur Hardy. Mais ils en ont conservé l'essentiel. Et vous verrez en particulier la lettre de Boissary de février 1904. Pardon, le procureur général de Paris. La lettre de Boissary qui dit tout. C'est-à-dire, il n'est pas question, bien entendu, d'inculper Hardy, parce que, dit-il, ça casserait la résistance, ça réveillerait les fractures, tu parles, ça montrerait les responsabilités de l'ensemble du corps politique anticommuniste dans le sacrifice de Lestrin et de Moulin. Et encore, là, c'est pas le dossier de Lestrin, c'est le seul dossier Moulin. Et d'ailleurs, ils ont éliminé le dossier de Lestrin parce que Multon, qui était le complice de Hardy dans l'affaire et qui avait été directement associé à l'arrestation deux jours avant de Lestrin, ils l'ont éliminé. Ils ont tué, ils ont exécuté en juillet 1946 Multon, qui avait la clé du dossier de Lestrin, pour ne plus laisser que Hardy, qui était arrivé en Algérie en disant à Trenet, dis donc, avec tout ce que j'ai fait pour toi, là, il faut que tu me sauves la mise. Et on le sait depuis Péan. Car Péan, il a sacrifié à l'ancienne du méchant parti communiste qui accusait le brave Trenet d'avoir transformé son ministère en suppo-vichiste. Or, c'est bien simple, hein, c'était l'absolue vérité. Bon, puisqu'on a trouvé Hardy qui était un haut responsable, quand il a été arrêté, qui était un haut responsable du ministère de Freinet, comme tout le reste. Hein. Et donc, les choses sont claires. Il n'y a pas de résistance, je dirais, soudée par la résistance. Et là, monsieur a raison, c'est une résistance qui est fracturée par les luttes de classe ou par le souci des élites de rester ce qu'elles sont et de rester à la place où elles sont. Voilà ce qu'on peut dire. Par contre, il n'y a absolument aucun doute sur les responsabilités respectives, sur l'association des Américains. Tout le monde avait intérêt, y compris de Gaulle, à ce que Jean Moulin ne risquât pas de faire ombre à de Gaulle. Et pourtant, les Américains détestaient de Gaulle, mais il est incontestable qu'on fait avec ce qu'on a. Hein. Donc, le degré de responsabilité, c'est pour ça que j'ai choisi l'affaire Hardy. Parce que l'affaire Hardy vous montre ce que c'est finalement ce que dit très bien Duclos en novembre 1946, quand s'amorce la première éviction des communistes du gouvernement, c'est-à-dire le gouvernement monocolore socialiste qui est fait simplement comme une sorte de répétition de l'éviction du 4 mai 1947. Ça, j'ai étudié ça dans ma thèse d'État. C'est vraiment la problématique sincère quand Duclos dit « Les ouvriers, c'est bon pour produire, c'est bon pour se battre, mais c'est pas bon pour gouverner ». C'est pas seulement un effet de manche, c'est une dimension essentielle, mais qui évidemment invite à ne pas oublier les autres dimensions essentielles.
Bien, alors la dernière question, je crois, oui.
Si la Première Guerre mondiale est perçue plus comme une guerre impérialiste, c'est parce qu'il y a eu, premièrement, la suite de l'Empire ottoman, le partage de l'Afrique, donc les choses sont beaucoup plus claires que pour la Deuxième Guerre mondiale. Ça, c'est le premier point. Et deuxièmement, toutes ces personnes dont tu as parlé, je les ai toutes connues, recyclées en Algérie. Papon était à Constantine, Alors il y a eu un problème aussi, c'est que au moment où la torture était la plus violente, c'est-à-dire au moment de la bataille d'Alger, Fejem avait protesté contre la torture, il y avait eu bon, le rapport Fejem, etc. Et il a été présenté exactement comme un grand résistant et que c'était dans la suite de tout son passé.
Mais c'est pas le même Tedjen. C'est pas le même Tedjen. C'est pas Paul Henri. Non, c'est pas Paul Henri. C'est le frère qui a eu des scrupules. Mais c'est pas Paul Henri. Hein. Pierre Henri, pardon. Pierre Henri. C'est Paul.
Ah, Paul.
C'est Paul. Mais tu dis toi-même, finalement, on le voit très bien, un des enjeux de la Deuxième Guerre mondiale, tu le sais bien, ce sont les colonies. C'est d'ailleurs l'analyse que j'ai faite dans les protectorats. Hein. Tout le monde sait que les Américains vont piquer les colonies des concurrents. Hein. Et les Français le disent en 1947, nous avons un sursis. Vous savez pourquoi nous avons eu un sursis, nous? C'est parce que ça c'est très mauvais effet que le mouvement national s'installa en faisant comme premier geste l'offrande de base aéronavale aux Américains. Pour un mouvement national, c'était de très mauvais effet. Et comme la France, qui l'avait fait déjà à partir de 1942, où toutes les bases algériennes étaient américaines, où les bases marocaines étaient américaines. Et quand je dis américaines, c'est américaine, il n'y a jamais un Français qui pénétrait, il ne les fabriquait même pas. Ils venaient tous des États-Unis avec tout le matériel, tout, ça se fait toujours comme ça d'ailleurs, hein, sans personnel national. En Italie, vous savez ce que c'est. Hein. Bon. Voilà. Et regarde. Voilà,
la dernière remarque que je tirais, c'est qu'il y a eu récemment.
Et le Pacifique.
Sur Arte, des émissions sur la guerre du Vietnam. Et à ce moment-là, il y a eu la phrase absolument énorme de dire que les États-Unis étaient pour l'indépendance des pays, sans voir la contradiction qu'ils allaient prendre le pied tout de suite après. Mais je veux dire, ils assénaient ces vérités. Et de toutes les manières, il y a encore des historiens qui, à propos de l'Algérie, disent les États-Unis, parce qu'il y a eu une déclaration de Kennedy qui a dit que les Français devraient accorder l'indépendance à l'Algérie, mais sans voir ce qu'il y a des
Algériens. Mais bien sûr, c'est...
C'est encore aujourd'hui, c'est
oui, quand j'étais surtout spécialiste de l'après... Deuxième Guerre mondiale, je l'ai montré par exemple dans cet ouvrage sur les protectorats. L'enjeu, c'est... Mais vous savez que ça s'est fait partout.
Personne ne protestait à propos de... Enfin, il y a des énormités dans... Je crois que c'était 3 ou 4 émissions que j'ai regardées sur Arte récemment, sur la guerre du Vietnam. Les archives sont très bonnes, mais le...
Ben bien sûr, mais c'est tout le problème de l'historiographie dominante, hein, il faut bien le dire.
Bon, on est obligé de fermer la séance, voilà. À regret, parce que...
Voilà, mais s'il y a des gens qui veulent que je leur dédicace des ouvrages, je les dédicacerai sans doute dans la porte. Hein. Oui, il n'y a pas de problème.